Israël, Iran, la revanche fait craindre le pire.
On prie que l'on ne provoque pas une surenchère qui amènerait un désastre dans toute la région.
Haute tension et risque d'embrasement malgré les appels répétés à la détente. Jour de budget fédéral, investir dans les jeunes et l'avenir.
Les milléniaux et la génération Z sont le moteur de l'économie.
Au prix d'un imposant déficit.
On a doublé la dette du pays, ça va coûter 50 milliards par année juste en intérêts.
Et des travailleurs étrangers temporaires floués par des agences de placement qui contournent les règles. Bonjour, ici Claude-Sophie Hennekens. Le président iranien prévient Israël qu'il réagira à la moindre action lancée contre son pays. Malgré les appels au calme de plusieurs pays, dont le Canada, l'État hébreu a promis de répliquer contre l'attaque de l'Iran en fin de semaine en territoire israélien. Jean-Philippe Robillard, le régime de Téhéran a été bien clair ce matin.
Oui, et c'est le président iranien là qui a haussé le ton, Claude-Sophie, qui a déclaré que la moindre action d'Israël contre les intérêts de l'Iran provoquerait une réponse sévère, étendue et douloureuse de son pays. Il a également parlé de l'attaque de la fin de semaine comme d'un droit à l'autodéfense pour l'Iran.
Et oui. Le cabinet de guerre d'Israël va se réunir encore une fois aujourd'hui.
Oui, pour discuter à nouveau de la riposte que l'armée israélienne veut mener contre l'Iran. C'est la cinquième fois que le cabinet de guerre d'Israël se réunit depuis la fin de semaine, depuis l'attaque de Téhéran. Hier, il y a l'état-major de l'armée israélienne qui a affirmé qu'il y a une riposte qui se prépare et que l'armée va lancer son attaque au moment qu'elle choisira. Mais on n'a pas plus de détails, Claude-Sophie, pour le moment, pour l'instant. Cela dit, il y a le ministre des Affaires étrangères israélien qui appelle ses homologues de 32 pays, dont le Canada, à prendre des sanctions contre le régime de Téhéran. Il a notamment écrit à la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, pour demander, entre autres à Ottawa, à ce que les gardiens de la révolution islamique soient inscrits sur la liste des organisations terroristes. Le Canada, comme les États-Unis et plusieurs pays européens, d'ailleurs, qui a lancé un appel, vous l'avez dit tantôt, un appel au calme pour éviter une escalade du conflit au Moyen-Orient.
Merci Jean-Philippe.
Merci, au revoir.
Des manifestants pro-palestiniens ont bloqué le Golden Gate, le pont emblématique de la ville de San Francisco. Ils ont répondu à une mobilisation internationale qui vise à perturber l'accès à une quarantaine de villes à travers le monde. Des initiatives similaires devaient toucher plusieurs pays, dont le Canada, la Belgique et la Colombie. À New York.
It's a scam. It's a political...
Donald Trump a une fois de plus dénoncé ce qu'il qualifie de persécution politique hier à son arrivée au tribunal de Manhattan. Le premier des quatre procès criminels de l'ex-président américain s'est amorcé avec la sélection du jury. Le républicain est accusé d'avoir falsifié des documents financiers pour dissimuler le remboursement d'un paiement à une actrice porno afin d'acheter son silence. Le professeur de droit à la Cardozo School of Law, Michel Rosenfeld, estime qu'il est difficile de savoir si la poursuite a un dossier solide.
Les experts ne sont pas d'accord, car il est nécessaire de faire le lien entre les 34 chefs d'accusation qui sont techniques sur avoir falsifié des documents, avec l'intention d'avoir caché certaines choses et de faire taire des gens avec des contributions à une campagne électorale qui était illégitime.
Donald Trump est le premier président de l'histoire des États-Unis à comparaître devant la justice pénale. Et en bref, ailleurs dans le monde. La Chambre des représentants des États-Unis va tenir cette semaine deux votes séparés au sujet de l'aide financière pour l'Ukraine et Israël. Les deux enveloppes budgétaires faisaient initialement partie de la même proposition, mais plusieurs républicains s'opposent à fournir davantage d'aide à l'Ukraine. La proposition est donc bloquée au Congrès depuis plusieurs mois. L'attaque au couteau survenue dans une église de Sydney hier en Australie est désormais traitée comme un acte terroriste. La police australienne estime que le suspect, un adolescent de 16 ans, était motivé par l'extrémisme religieux. Un évêque, un autre prêtre, au moins deux policiers et le suspect ont été blessés dans l'attaque. Et la flamme olympique vient d'être allumée en vue des Jeux olympiques qui se tiendront à Paris cet été. La cérémonie a eu lieu, selon la tradition antique, à Olympie, en Grèce. Des athlètes vont se relayer pour transporter le flambeau dans de nombreux sites historiques et naturels, en passant notamment par le château de Versailles et le Mont Saint-Michel. Il est attendu en France le 8 mai. À Ottawa, le budget que la ministre des Finances, Chrystia Freeland, va déposer cet après-midi recèle peu de secrets après trois semaines ponctuées d'annonces de dépenses de plusieurs milliards de dollars. Le suspense réside plutôt dans l'ampleur du déficit et dans la stratégie pour l'éponger. Le reportage de Laurence Martin.
C'est parfait.
Le budget approche à grands pas et comme le veut la tradition, Chrystia Freeland a de nouvelles chaussures aux pieds.
Très confortable.
Des escarpins noirs fabriqués par Maguire, une jeune entreprise québécoise, qui illustre bien le public ciblé par Ottawa dans cet exercice.
Les milléniaux et la génération Z sont le moteur de l'économie. On veut leur redonner l'optimisme et les possibilités que leurs parents et leurs grands-parents ont connues.
Le gouvernement Trudeau a déjà annoncé une pluie de dépenses pour aider les jeunes locataires et les premiers acheteurs. Selon nos informations, il entend du même coup augmenter ses revenus en imposant davantage les Canadiens les plus riches, moins d'1% des contribuables. L'économiste indépendant Jean-Pierre Aubry.
Est-ce que le gouvernement a besoin de passer un signal comme quoi il gère bien? Et ça, ça peut impliquer de taxer plus.
Mais dans l'opposition, le conservateur Pierre Paulus et le bloquiste Alain Terrien croient que les libéraux devraient surtout mieux contrôler leurs dépenses.
C'est au gouvernement Trudeau de gérer l'économie du Canada de façon efficace, ce qu'on n'a pas vu depuis 8 ans.
Avant de commencer à parler d'augmentation des taxes, peut-être se dire, est-ce qu'on gère correctement les finances publiques?
Toujours selon nos informations, le budget devrait aussi inclure des mesures fiscales qui visent les entreprises, ce qui réjouit Jagmeet Singh.
Particulièrement les entreprises qui font des profits records au Canada, elles doivent payer le juste part.
En coulisses, les néo-démocrates se félicitent d'avoir influencé le mode de pensée libéral en vue du budget. Ici Laurence Martin, Radio-Canada, Ottawa.
Statistique Canada va dévoiler ce matin justement la mise à jour de l'indice des prix à la consommation. L'agence fédérale avait rapporté en mars une hausse de l'inflation de 2,8% sur un an, mais en léger recul sur un mois. Des travailleurs étrangers temporaires sont embauchés par des agences de placement, même si un règlement de Québec interdit cette pratique. C'est que certains accords de libre-échange leur permettent de contourner la loi, au détriment de travailleurs étrangers qui affirment se trouver dans une situation de grande précarité. Les précisions de Thomas Dehaye.
Elisabeth est plus qu'amère de son expérience de travail au pays. Recrutée par une agence de placement pour un an, elle s'est retrouvée après quelques semaines sans heure de travail, dans l'attente d'être appelée par l'agence. Et elle vit aujourd'hui à crédit. Elle n'est pas la seule à s'être retrouvée dans cette situation.
J'ai beaucoup de questionnements.
Le vice-président de l'agence de placement ISA Immigration, Yves Legault, s'étonne de cette pratique. Il explique qu'un règlement provincial prévoit que les demandes d'embauche de travailleurs étrangers par des agences au profit d'un client ne seront pas acceptés par Québec.
C'est contraire au règlement.
Les agences en cause n'ont toutefois pas à se conformer au règlement provincial en raison d'un accord de libre-échange signé par le fédéral. L'avocate spécialisée en droit de l'immigration, Krishna Gagné, croit toutefois que le programme des travailleurs étrangers temporaires n'a pas été conçu pour que les agences puissent se constituer un bassin de main-d'œuvre.
Il me semble qu'on contourne l'esprit du programme qui vise à combler une pénurie de main-d'œuvre chez un employeur spécifique.
Informé que des permis fédéraux ont été accordés à des travailleurs d'agence, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada mentionne pourtant que les agences ne peuvent embaucher directement des travailleurs. Le ministère a cependant refusé notre demande d'entrevue.
La situation s'est ido complicando cada vez más.
Les travailleurs rencontrés tentent quant à eux d'obtenir l'accord du fédéral pour être embauchés par une autre entreprise. Ici Thomas Dehaye, Radio-Canada, à Sherbrooke.
Un des plus anciens bâtiments de la ville de Copenhague est la proie des flammes ce matin. Il s'agit de l'édifice historique de l'ancienne bourse de la capitale du Danemark. Son imposante flèche de 54 mètres en forme de spirale s'est effondrée. Près de 400 ans de patrimoine culturel partent en fumée. Le bâtiment datant du 17e siècle. La scène spectaculaire n'est pas sans rappeler l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, dont on commémorait justement les 5 ans hier. Et en terminant pour une quatrième année, les récifs coralliens du monde entier connaissent un blanchissement global. Selon des experts des récifs, il s'agit du résultat du réchauffement des eaux océaniques en raison du changement climatique provoqué par l'humain. Si le blanchissement est sévère et prolongé, le corail peut mourir. Les récifs coralliens sont des écosystèmes importants qui soutiennent la vie sous-marine, protègent la biodiversité et ralentissent l'érosion. Voilà, c'était le Radio-Journal. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite de passer une excellente journée.